Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes venus rendre un culte au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Un seul Dieu, trois personnes qui sont tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour connaître le salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te remercions pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes d'être là ce matin et de pouvoir ensemble méditer un texte de ta parole, être enrichi par elle, être nourri par elle. Et Seigneur, nous voulons te demander en effet que tu nous accordes des cœurs réceptifs, des cœurs tendres pour que cette parole de vie pénètre en nous et nous transforme petit à petit à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom, Seigneur, que nous te prions avec reconnaissance. Amen. Amen. Nous lisons un premier texte dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. On va lire les versets 14 à 21. Romains 5, depuis le verset 14. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous allons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Nous lisons depuis le verset 5, Hébreux 10, 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La démonstration magistrale de la lettre que nous avons sous les yeux, une lettre écrite pour encourager des chrétiens éprouvés dans leur foi, en but à des persécutions et tenter de revenir en arrière sur le point d'abandonner l'assurance qu'ils avaient en Jésus-Christ. Cette démonstration, c'est que dans l'Écriture sainte, dans la Bible, tout converge vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est lui, le Fils de Dieu, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Si bien que les institutions de l'Ancienne Alliance, toutes les prescriptions de la loi de Moïse, que Dieu avait données à son peuple pour qu'il les observe avec soin et sans rien omettre, ces institutions, utiles et valables pour un temps, pour une longue période, qui durerait jusqu'à une époque de réformation, cette époque c'est celle de l'Évangile, ces institutions, ces prescriptions de la loi de Moïse n'étaient en fait qu'une image de ce qu'elles annonçaient, une ombre de celui qui allait en être l'accomplissement définitif, notre Seigneur Jésus-Christ. On peut relire les trois tout premier verset de cette lettre aux Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Dans le premier chapitre de sa lettre aux Éphésiens, au verset 9 et 10, Paul dit que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Vous voyez ce qu'on disait. Tout converge vers le Seigneur Jésus-Christ. Toute la volonté de Dieu s'accomplit en lui, par lui et pour lui. C'est ce qu'exprime aussi le premier chapitre de la lettre aux Colossiens, si vous allez y voir. Le problème de l'homme sur la terre reste le même depuis toujours, ou presque. Il reste le même depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, ont pensé qu'ils pourraient ignorer les avertissements de Dieu, sans qu'ils en subissent de graves et durables, et ô combien durables, conséquences. Et hier comme aujourd'hui, s'affranchir de la parole de Dieu, ne pas tenir compte de ce que Dieu a révélé dans sa parole, ignorer ou feindre d'ignorer sa volonté pour les hommes qu'il a créés, volonté qui est sainte, juste et bonne. Ne pas en tenir compte entraîne, hier comme aujourd'hui, toujours les mêmes conséquences. Au lieu du bonheur, le malheur. Au lieu de la vie, la mort. Car vivre en dehors de la volonté de Dieu, c'est vivre dans le péché. Et vivre dans le péché, c'est mourir. Le corps vit, certes, encore un certain temps, mais l'âme est déjà morte. Elle est morte parce qu'elle ne connaît pas Dieu, parce que la vie de Christ n'est pas en elle. Dans l'Ancienne Alliance, les prescriptions cérémonielles de la loi, le sacerdoce lévitique, avec le régime très précis des sacrifices et des offrandes pour le péché, tout ça a permis autrefois au peuple d'Israël de vivre, malgré toutes ses imperfections, malgré ses lacunes, il a pu vivre malgré ça sous la protection de Dieu. On peut même dire sous sa bénédiction, malgré son péché. Mais si Dieu accordait au peuple son pardon grâce au sang des animaux qui était régulièrement répandu sur l'autel, eh bien ce sang-là n'a jamais réussi, tout simplement parce qu'il n'en avait pas le pouvoir, il n'a jamais pu procurer, ni au sacrificateur, ni à plus forte raison au peuple, la perfection d'une conscience pure, d'un cœur pur. Parce que pour ça, il ne fallait pas présenter à Dieu du sang animal, mais le sang d'un homme. Pas n'importe lequel. Un homme qui est lui-même la conscience et le cœur pur. Il n'y a que le sang d'un tel homme qui puisse racheter la vie d'un homme souillé par le péché. Il n'y a que la vie sainte, juste, pure et parfaite d'un homme qui puisse être considérée comme une rançon valable pour racheter la vie d'un homme condamné à cause de son péché. Mais où, sur la terre, trouver une vie qui soit sainte, juste, pure et parfaite? Où? L'apôtre Paul a bien dû se poser la question quand il affirme dans son épître aux Romains, chapitre 3, 9 à 12, « En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Comme nous l'avons donc vu la dernière fois avec le début du 10e chapitre, étant donné que la loi ne possède qu'une pâle représentation des choses, sous-entendu des choses célestes, ou simplement de la réalité des choses selon le dessein de Dieu, on pourrait dire des choses sous leur forme accomplie, parfaite. Eh bien, puisque la loi n'en est qu'une pâle représentation, ce qui était institué avec la loi est forcément incapable d'amener à la perfection ceux qui rendent ce culte, le culte judaïque. Comme on l'a dit, les sacrifices d'animaux, et plus précisément le sang animal, n'a jamais eu aucune capacité de rendre un homme pur sous le rapport de sa conscience. Il n'a jamais fait que couvrir le péché, en somme, mais pas l'ôter, pas l'abolir. Ça n'a en fait jamais été la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi, comme l'atteste la citation du psaume 40. Dans ce psaume, il est à la fois question du roi David et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il s'agit donc, comme pour beaucoup d'autres, d'un psaume messianique. Et il est donc bien écrit, parlant de Jésus, qui connaissait fort bien l'impossibilité pour le sang des taureaux et des boucs de supprimer le péché. Il est écrit, donc, parlant de Jésus, « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, Alors je viens, moi, Jésus, alors moi, je viens, mon Père céleste, pour faire ta volonté. Et bien sûr, il est ici question de l'abolition du péché, de comment un homme peut en être purifié dans son corps et dans sa conscience. Et c'est Jésus qui est capable d'accomplir la volonté de Dieu. Non seulement qui en est capable, mais qui le fait, puisqu'il dit « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Donc, ce que je voulais dire, c'est que s'il est question ici de Jésus qui accomplit la volonté de Dieu, en venant régler une fois pour toutes la question du péché, il nous faut comprendre, en fait, que c'est en toute chose que l'exécution de la volonté de Dieu trouve son accomplissement en Christ. Vraiment, toute chose. C'est pour ça qu'il est impossible de plaire à Dieu en dehors de la foi en Jésus-Christ, sans être habité par la vie de Christ. On peut rappeler à cet égard cette parole que nous verrons au chapitre 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Mais si on dit que pour l'homme, l'accomplissement de la volonté de Dieu est impossible en dehors de Jésus-Christ, c'est une manière beaucoup trop restrictive de considérer les choses. Parce qu'en fait, il s'agit de toute la volonté de Dieu, pas seulement celle qui concerne le salut de l'homme. Pour être convaincu de la chose, le Saint-Esprit nous renvoie de nouveau au début de notre épître, encore au premier chapitre, verset 2, « Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. » Verset 10, « Toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Vous voyez, la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, s'accomplit toujours au travers de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on a parlé de la création du monde, de tout l'univers, et donc aussi de la création de l'homme. On a parlé de la recréation de l'homme, de sa nouvelle naissance, quand le Seigneur Jésus abolit le péché par son sang. Mais qu'en est-il de la volonté de Dieu en ce qui concerne les incroyants, les incrédules, ceux qui refusent de croire à l'Évangile et qui s'endurcissent dans leur péché, dans leur impiété? La volonté de Dieu à leur égard s'accomplit-elle aussi par le Seigneur Jésus? Mais oui, tout à fait. C'est encore par le Christ que Dieu va juger le monde. Acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, qui est cet homme. Voilà la réponse. Cet homme, il l'a ressuscité des morts. Vous voyez, Dieu sauve les hommes, tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et dans la foi, il les sauve par le Seigneur Jésus. Mais il jugera aussi et condamnera ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Et ce sera aussi par le Seigneur Jésus. Toute la volonté divine s'accomplit en Jésus-Christ. Il est réellement le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Avant d'aller plus loin dans notre épître, je voudrais juste revenir sur un point qui n'est pas d'une importance capitale, mais qui a peut-être étonné certains d'entre vous, en tout cas ceux qui sont les plus curieux ou les plus attentifs. Avez-vous pu vous mettre dans le paquet? Il s'agit de la citation empruntée au psaume 40. On l'avait déjà remarqué, régulièrement, les citations de l'auteur de notre épître ne concordent pas exactement avec le texte original hébreu. Il y a même parfois des différences significatives. Mais pour être rassuré là-dessus, on avait dit que notre auteur s'inspirait du texte qui était à disposition à l'époque, qui était la traduction des Septante. Donc la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament. Mais qu'en est-il ici avec ce psaume 40? Eh bien, là où il est dit dans notre Bible, donc psaume 40, verset 7, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. » Voilà ce qui est écrit. Psaume 40, verset 7. L'auteur des Hébreux a écrit, fin du verset 5, chapitre 10, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Dans le psaume, c'est « oreille », dans hébreu, c'est « corps ». Mais là, l'auteur n'a pas été le chercher, ce corps, dans la traduction des Septante, parce qu'elle parle aussi, cette traduction, des oreilles. Elle dit « Tu m'as donné des oreilles ». La traduction Martin, que nous considérons comme la plus fidèle traduction en français, dit quant à elle « Tu m'as percé les oreilles ». Bon, on ne résoudra pas vraiment cette énigme ce matin, mais on peut quand même juste dire que le percement des oreilles que signale Martin pourrait faire référence à l'esclave, hein, à qui effectivement on perçait l'oreille. Pas n'importe quel esclave, mais celui qui aimait son maître. Et certainement que son maître le lui rendait bien. Il l'aimait et souhaitait donc rester pour toujours à son service. Et comme marque pour cet esclave, qu'est-ce qu'on faisait? On le faisait approcher d'un montant en bois, de je ne sais pas quoi, et paf! Et on lui perçait l'oreille, et c'était la marque qu'il recevait. C'était en somme la marque de son dévouement. On voit ça au chapitre 21 de l'Exode, versets 6 et 7, et Deutéronome 15, versets 16 et 17. Je ne préfère pas entrer dans les autres considérations qu'avancent les commentateurs, qu'ils avancent d'ailleurs sans en être absolument convaincus eux-mêmes. Pour nous, je vous propose d'admettre que ce mot de « corps » qu'a écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux convient particulièrement au contexte. Au contexte de ce qu'il est en train de développer et que nous avons vu la dernière fois. Et donc, en fait, même s'il s'agissait du percement des oreilles d'un esclave, ça conviendrait tout à fait au dévouement de notre Seigneur Jésus-Christ envers son Père. Un dévouement tel qu'il a accepté de recevoir ce corps d'homme pour venir mourir sur une croix à notre place, afin que son sang nous purifie de tout péché, et notre corps et notre conscience. Et nous reprenons maintenant depuis le verset 11. Et là, on n'apprend rien vraiment nouveau dans les versets 11 et 12, sauf qu'ici, il est parlé, cette fois non pas du souverain sacrificateur qui entre une fois par année dans le lieu très saint, mais du sacrificateur ordinaire qui offre souvent les mêmes sacrifices chaque jour. En fin de compte, beaucoup de sacrifices qui, même malgré leur immense nombre, n'ont jamais réussi à ôter les péchés. Ce qui obligeait le sacerdoce lévitique à être perpétuel, à ne jamais prendre fin. Chaque jour, il fallait recommencer. Pas de repos, ni pour les sacrificateurs, ni pour le peuple. Mais alors quel contraste avec le Seigneur Jésus, parce que lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Oui, quel contraste quand on met d'un côté les milliers et les milliers, mais je ne sais pas combien, j'ai presque voulu dire des millions, j'en sais rien, d'animaux qui ont été égorgés, dont le sang a coulé, des torrents de sang ont coulé. Mais des torrents qui n'ont jamais fait que couvrir le péché, le cacher, en quelque sorte, sans jamais l'éradiquer, sans jamais l'abolir, et donc sans jamais pouvoir conduire la perfection à la perfection, le peuple de Dieu. Et de l'autre côté, alors, les torrents de sang animal, d'un côté, sur le plateau de la balance, puis de l'autre côté, un seul sacrifice. Une seule offrande pour le péché, paf, et le service est terminé. Le Seigneur Jésus s'est assis, pour toujours, à la droite de Dieu. Et rappelez-vous en effet que sur la croix, Jésus avait dit « Tout est accompli ». Le salut des enfants de Dieu est donc là. Il n'y a rien à y ajouter. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est dans la mesure où nous sommes attachés à Jésus-Christ par la foi que nous jouissons de la totalité des bienfaits dont il nous comble par son sacrifice unique. Et je voudrais dire par la redoutable efficacité de son sang. C'est ce que dit en d'autres termes le verset 14, « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Le verset 10 disait « Une fois pour toutes ». Le verset 28 du 9e chapitre parlait du Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Au verset 12 de ce même 9e chapitre, nous lisions que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il ne s'agit bien sûr pas du lieu très saint du temple, du tabernacle, mais le lieu très saint, céleste, dans la présence de Dieu. Alors vous entendez l'insistance de l'auteur, comme il insiste sur l'absolue perfection, parce que c'est ça en fait, l'absolue perfection du sacrifice du Seigneur Jésus, tellement parfait qu'une seule fois a suffi. Suffit pour abolir le péché, redisons-le, l'abolir dans notre corps et dans notre conscience. Suffit pour nous sanctifier et nous rendre justes aux yeux de Dieu. Suffit enfin pour faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 22. En sorte que par la vie de Christ qui nous habite, la perfection elle-même nous habite. Excusez du peu. Quel mystère, n'est-ce pas? Quelle chose à proprement parler incompréhensible. Que si ce n'était pas le Saint-Esprit qui nous montrait ces choses, si ce n'était pas la parole même de Dieu, du Dieu vivant et vrai, qui s'adressait à nous, nous pourrions si facilement remettre en doute tout ça. Mais les apôtres eux-mêmes ont fait cette déclaration à Jésus, leur maître et leur frère. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Même Jésus le dit bien quand il répond à Pierre qui vient de faire cette belle confession. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Jésus lui répond, tu es heureux Simon, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas une intelligence, une sagesse humaine, mais c'est mon Père. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ça. Et nous, c'est pareil. Si nous croyons ces choses, c'est une révélation de Dieu. Vous ne la trouverez ni dans le Nouvelliste, ni dans le bulletin officiel. L'Épître aux Colossiens le dit aussi, Colossiens 2, 3, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et si ce n'est donc pas l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses, eh bien, notre intelligence reste complètement, mais complètement obscurcie, totalement hermétique à la vérité de Dieu. Quelle grâce alors ! Quelle grâce, mes amis ! Quelle grâce il nous a été faite d'entrevoir ces choses. Je dis seulement entrevoir, n'exagérons pas quand même. Parce que pour le moment, nous ne le voyons pas encore, si ce n'est avec les yeux de la foi. Mais grâce à Dieu, pour nous, ce que nous voyons avec les yeux de la foi est encore bien plus réel que tout ce théâtre du monde qui se joue devant nos yeux, cette comédie plus tragique que comique. Revenons à Hébreux, verset 14. « Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Alors ici encore, comme pour le péché qui est aboli, comme la sainteté, la justice du Christ qui est la nôtre, de tout ça, il s'agit pour le moment que d'une imputation. C'est déjà pas mal. Ce sont toutes des choses qui figurent en bonne place sur notre compte, bien qu'appartenant à Jésus-Christ, mais qui déjà, parce qu'elles sont sur notre compte, qui déjà nous caractérisent aux yeux de Dieu. Cette perfection dont il est parlé au verset 14 est pour le moment une perfection imputée, c'est-à-dire mise sur notre compte par pure grâce. Mais comme je l'ai dit, le Christ vivant en nous par son esprit, cette perfection est déjà en nous. C'est donc quand même un peu plus qu'une imputation. Et puisqu'il est dit que Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, nous avons la certitude qu'un jour, cette perfection sera réellement et pleinement la nôtre. Il me semble à cet égard qu'on peut tout à fait rapprocher ce verset de ce passage bien connu de l'Épître aux Romains, que nous pouvons relire, Romains 8, versets 28 à 30. « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Vous comprenez, il faut bien que nous soyons menés à la perfection pour être glorifiés. Mais avec beaucoup de hardiesse, Paul dit que nous sommes déjà glorifiés. Et ce que nous voyons dans ces quelques versets de manière condensée, c'est d'une part que l'appel de Dieu est irrévocable, et surtout que ceux qui l'appellent, il va les conduire, immanquablement, à la perfection. C'est aussi ce que dit le début du 12e chapitre des Hébreux. « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il s'agit de ceux qui nous ont précédés dans la foi, en particulier tous les témoins qui sont mentionnés au chapitre 11 de notre épître, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la conduit à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, Jésus, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite de Dieu. » Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. La foi est un don de Dieu, mais tout ce qui découle ensuite de notre foi l'est également. C'est ce qui nous permet d'obéir, en fait, à la parole de Dieu, de nous exercer à conformer nos vies à l'exemple du Christ et de le faire librement et dans la paix. Oui, puisque l'apôtre Paul dit aussi, maintenant dans le premier chapitre de 1 Corinthiens, versets 8 et 9, il dit que Dieu vous affermira. Dieu le fait. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, Paul, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24, Paul dit clairement que du fait de la fidélité de Dieu envers ses promesses, envers ses enfants, c'est lui qui accomplira ces choses en nous. C'est aussi la raison pour laquelle, de notre côté, il ne nous faut pas rester oisifs, les bras ballants. Non, puisque Dieu agit en nous, eh bien, il nous faut aussi agir. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Mais Dieu agit en nous, alors agissons. Et c'est comme ça que sa volonté pourra s'accomplir, à la fois en nous, mais aussi en dehors de nous, dans les circonstances qui sont les nôtres, auprès des personnes vers qui le Seigneur nous envoie. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, mais quelle offrande ? Le Fils de Dieu qui donne sa vie en rançon pour la nôtre, une rançon de valeur si élevée que par elle, Jésus a déjà amené à la perfection et pour toujours ceux qu'il a mis à part. Cette perfection sous-entend l'abolition du péché, comme nous le voyons assez clairement dans la suite du texte, qui est de nouveau une citation de l'Ancien Testament, et de nouveau du prophète Jérémie au chapitre 31. Je dis de nouveau parce que déjà au 8e chapitre de notre épître, l'auteur avait cité le même passage. Ici, une citation assez libre, puisque notre auteur ne retient que ce qui l'intéresse, que ce qui entre dans la démonstration qu'il est en train de faire. L'alliance que Dieu fait avec son peuple, la nouvelle alliance, implique deux choses. D'abord, le Seigneur Dieu qui met ses lois dans le cœur de ses enfants, de ceux qu'il rachète par le sang de son Fils. Il les écrit dans leur intelligence, dans leur esprit. Et deuxième chose, par le fait même qu'il a mis sa loi dans nos cœurs, eh bien, il ne se souvient plus de nos péchés, ni de nos iniquités. Par le fait même qu'il ait mis sa loi en nous. C'est l'œuvre surnaturelle accomplie par Jésus sur la croix. C'est ce qu'implique le rachat de nos âmes et de nos corps pour que nous appartenions de plein droit, non plus à nous-mêmes, mais à Dieu. Mais là où l'auteur veut en venir, en reprenant cette citation de Jérémie 31, d'abord c'est que quand Dieu pardonne les péchés, il ne s'en souvient plus, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises à d'autres occasions. Il ne s'en souvient plus, mais il manifeste au contraire une attitude bienveillante et encourageante envers le pécheur pardonné. Donc il ne se souvient plus des péchés quand ils ont été pardonnés, et ensuite, en conséquence, puisqu'il y a eu pardon des péchés, il n'y a forcément plus d'offrande pour le péché. Et s'il n'y a plus d'offrande pour le péché, puisque Jésus a accompli une fois pour toutes tout ce qui était nécessaire pour satisfaire à la volonté de son Père, puisqu'il n'y a plus ni offrande ni sacrifice pour les péchés, ça veut donc dire que par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire un libre accès à Dieu. Nous n'avons aucune pièce à présenter, carte d'identité, registre d'église, certificat de bonne mœurs, extrait du casier judiciaire. Non, Jésus a présenté à Dieu son sang pour nous, et ça suffit. Nous avons dès lors une libre entrée dans le sanctuaire, si nous nous confions dans le Seigneur Jésus. L'auteur au verset 20 parle d'une route nouvelle que Jésus a inaugurée pour nous au travers du voile. Qu'est-ce à dire ? Le voile du tabernacle dans le désert, qui séparait le lieu saint du lieu très saint ? Ou bien le voile du temple, qui jouait ce même rôle de ne pas permettre au souverain sacrificateur de pénétrer plus d'une fois par année dans la présence de Dieu, qui marquait ce voile, la redoutable sainteté de Dieu ? Ce même voile qui s'est déchiré de haut en bas à l'heure où Jésus, sur la croix, rendit l'esprit ? Non, il ne s'agit pas de ce voile-là. Comme le précise notre texte, dans le tabernacle, pour passer du lieu saint au lieu très saint, le souverain sacrificateur devait passer par le voile. C'était le chemin obligé. Il n'aurait pas pu y pénétrer par ailleurs. Ça aurait été tout à fait impossible. Il en est de même pour l'accès au sanctuaire céleste. Il y a un seul chemin. C'est ce qu'affirme d'ailleurs toute la Bible. Un seul chemin, un seul nom par lequel nous pouvons librement nous approcher de Dieu. Un Dieu qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas à cause de notre péché, qui ne se souvient même pas de nos forfaits. Non, un Dieu dont le père de la parabole du fils prodigue est l'image. Le père est l'image de Dieu, pas le contraire. C'est-à-dire un Dieu qui accueille tendrement, affectueusement, tout homme qui revient à la maison en ne comptant que sur la grâce du Père, sa miséricorde. La miséricorde de celui qui se révèle comme un Père aimant envers tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère, dans la repentance, dans la foi. Et donc le voile dont il est question ici, ce passage obligé pour entrer dans la présence de Dieu, de ce Dieu qui ne se révèle pas ici comme un juge, mais comme un père, ce voile, c'est la chair meurtrie de Jésus. Meurtrie à cause de mon péché. Mais c'est aussi le corps de Jésus qui, après la résurrection, se tient à la droite du trône de Dieu. Ce corps meurtri, mais ressuscité et glorifié, c'est notre grand souverain sacrificateur qui a été établi pour toujours sur la maison de Dieu, c'est-à-dire sur son peuple, qui est l'Église. Et alors l'auteur de cette lettre extraordinaire presse maintenant ses lecteurs, nous presse, de nous approcher avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur vrai qui exprime ses véritables pensées, ses véritables sentiments. Un cœur qui n'est pas hypocrite, qui n'est pas double, qui ne cherche pas à camoufler des choses. C'est vrai que parfois, pour ne pas être rejeté, ou pour ne pas se sentir honteux ou même coupable, il peut arriver qu'on cherche à camoufler des défauts, des péchés, des faiblesses. Mais devant Dieu, c'est inutile. Ben oui, puisqu'il nous connaît déjà parfaitement. Encore mieux que nous-mêmes. Il sait encore mieux que moi pourquoi j'adopte avec telle ou telle personne tel comportement, telle attitude. Certaines choses dans mon propre cœur me sont cachées. Je ne comprends pas pourquoi je réagis de telle ou telle manière. Mais Dieu, non. Non. Et ce serait donc parfaitement inutile de penser qu'on pourrait lui cacher quelque chose. Voilà la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. S'agit-il ici du baptême, cette eau pure ? Non, parce que l'eau dans laquelle nous sommes plongés lors de notre baptême est incapable de laver les souillures du corps. L'eau ne serait d'ailleurs jamais assez pure pour nous procurer la pureté de la chair. Et surtout, le baptême n'est pas le signe de la purification des péchés, mais de notre mort avec le Christ sur la croix, lorsque nous sommes plongés dans l'eau, et de notre résurrection avec lui en une vie toute nouvelle, lorsque nous sortons de l'eau comme si nous sortions avec le Christ de la tombe. Alors pourquoi ne pas dire que cette eau qui lave le corps ici, mais qui purifie aussi le cœur, c'est la même eau. C'est tout simplement la parole efficace de Dieu. Le Christ, en somme. Parce que, nous l'avons vu, c'est par l'efficacité de son sang que notre corps est purifié. Purifié du péché. Et notre conscience libérée de toute culpabilité. Alors, voilà. Chers frères et sœurs, chers amis, quel est le trésor que nous avons dans le ciel ? Trésor qui nourrit notre esprit d'une espérance vivante. Quel est ce trésor ? Eh bien, c'est cet unique sacrifice du Christ. C'est la présence de Jésus, notre souverain sacrificateur, à la droite du trône de Dieu. Lui qui porte nos noms, qui est notre parfait représentant dans le sanctuaire céleste. C'est notre trésor, c'est aussi l'offrande parfaite de son sang en témoignage de notre rachat et de notre purification. Purification qui fait de nous, aux yeux de Dieu, des justes, des parfaits. C'est tout ça, en particulier, qui compose notre trésor céleste. Écoutons encore cette dernière exhortation pour aujourd'hui. Verset 22. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, nous pouvons placer toute notre confiance dans les promesses de l'Écriture, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et parce que c'est avec serment que le Père a juré en parlant de son Fils Jésus. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, l'unique sacrificateur, l'unique prêtre, l'unique médiateur dont nous avions besoin, dont nous avons encore besoin, toujours, pour nous procurer la paix avec Dieu et la joie de la vie dans sa présence, maintenant et pour l'éternité. Cette éternité que nous passerons dans le sanctuaire céleste, quand Jésus nous aura pris avec lui dans le royaume de son Père. Amen. Amen.